l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bonjour à vous, Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Comment Lourdes se prépare à accueillir le pape Léon XIV dans quelques jours? On va en parler dans un instant avec votre invité.
Damien Massé, il est le coordinateur de la venue du pape Léon XIV au sanctuaire de Lourdes et il va tout nous dire, ou presque, en tous les cas, tout ce qu'il peut nous dire d'ores et déjà sur la venue du pape à Lourdes.
Assure également direction Bayonne pour évoquer l'actualité et l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Je serai en duplex dans un instant avec la responsable de la communication pour ce diocèse. C'est Nathalie Chambon qui sera avec nous au pied de la cathédrale, puisqu'elle a ses bureaux juste en face de la cathédrale de
Quelle
Bayonne.
Quelle chance.
Voilà, mais elle a des travaux en ce moment, donc on va voir s'il y a toujours les travaux ou pas. Voilà.
Quel programme.
Exactement. Pour le moment, place à l'actualité régionale avec l'essentiel de l'actualité avec Éric Leclerc et les titres qui seront développés à midi et demi.
À quelques jours de l'audience du tribunal de commerce de Toulouse, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, appelle le président de la République, Emmanuel Macron, à décider d'une nationalisation temporaire de l'usine Fibre Excellence à Saint-Gaudens, c'est-à-dire une prise de participation provisoire de l'État au capital de l'entreprise, ne nécessitant pas de loi spéciale. Objectif, sécuriser le site de Saint-Gaudens et ses 270 emplois pendant quelques mois, afin de donner aux industriels intéressés le temps nécessaire pour finaliser une solution de reprise pérenne. L'usine de pâte à papier est placée depuis fin juillet en liquidation judiciaire. Interruption de la navigation durant plusieurs semaines sur le canal latéral à la Garonne entre Montèche et Escatalens dans le Tarn-et-Garonne. Sa mine péniche a percuté l'écluse de Montèche. Aucune victime n'est à déplorer. Depuis 10 ans, le réseau Linéo accompagne au quotidien les habitants de l'agglomération toulousaine dans leurs déplacements. Plus de 200 millions de voyages ont été réalisés à bord de ces 13 lignes structurantes, plébiscitées par 81% de voyageurs satisfaits. À cette occasion, Tisséo Collectivité déploie une campagne de communication sur son réseau, notamment à travers l'habillage d'une rame de tramway visible jusqu'au 26 septembre.
Merci Eric Leclerc, on vous retrouve tout à l'heure. À midi et demi pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Présence à Toulouse, 97.9.
Chaque jour, on sillonne notre région à la découverte de l'actualité et des agendas dans les diocèses. Aujourd'hui, direction le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Nous attend Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
En duplex depuis Bayonne, on va évoquer cet agenda et on va prendre la direction de la Vallée d'Aspe avec ce week-end, ce pèlerinage à Notre-Dame de la Paix dans le Haut-Béarn. Alors ça va se passer à Sarance. C'est pour nous l'occasion de signaler que Sarance fait partie du loto du patrimoine. Ce lieu a été sélectionné.
Oui, tout à fait. L'église Notre-Dame de Sarance donc bénéficiera d'une subvention dans le cadre du loto du patrimoine, puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, le lauréat est cette belle église de Notre-Dame de Sarance. Donc ça permettra effectivement de bien pouvoir amorcer ces travaux nécessaires à sa restauration. Et donc c'est donc ce même monastère de Sarance où il y a les frères de Prémontré qui sont installés et qui nous invitent à prier pour la paix en pèlerinant donc depuis Oloron-Sainte-Marie jusqu'à Sarance, départ le samedi 5 septembre à 8h30 depuis l'église Sainte-Croix, donc à Oloron, et puis l'arrivée à Sarens le soir pour les vêpres et la vigile. Ensuite, le retour en train est possible. Et puis sinon, on vous redonne rendez-vous le 6 à 11h pour la messe qui sera donc célébrée à Notre-Dame de Sarens et suivie d'un déjeuner partagé en mode auberge espagnole. Chacun apporte un plat et nous partageons. Nous terminerons par un chemin de croix, un chapelet pour la paix, qui est plus que bienvenue en ces temps un petit peu compliqués. Donc prions pour la paix, 5 et 6 septembre à Notre-Dame de Sarens.
Voilà, Notre-Dame de Sarens, c'est dans le Béarn, plus précisément dans la Vallée d'Aspe, un magnifique endroit à découvrir. On poursuit cet agenda avec le programme 2026-2027 de l'adoration communautaire de l'église Sainte-Thérèse à Pau. Alors plusieurs temps forts sont d'ores et déjà prévus.
Oui, tout à fait. Alors, déjà le lancement de ce premier jeudi d'adoration qui sera donc le 17 octobre. Je vous rappelle, c'est un jeudi par mois avec un thème, une petite heure d'adoration, la messe et une conférence. Donc le premier, c'est donc le 17 septembre. Le thème, c'est le groupe Réjouissez-vous qui animera ce temps d'adoration. Et tout le programme est sur le site internet du diocèse, diocèse64.org. À l'église, pardon, j'ai oublié de préciser que c'était à l'église Sainte-Thérèse, voilà. Avenue Trespoy, à Pau.
À Pau, exactement. Avec la rentrée, c'est le service diocésain de formation permanente du Béarn qui propose le parcours Zaché. Ça va se dérouler l'année prochaine. On peut peut-être rappeler quel est le but, qu'est-ce que vise ce parcours?
Oui, le parcours Zaché, c'est vraiment un parcours pour mieux connaître la doctrine sociale de l'Église. Vous savez à quel point notre Saint-Père est attaché à cette doctrine sociale de l'Église. Il permet à travers notre vie au quotidien de prendre conscience de ce qu'est cette doctrine sociale, de vivre pleinement notre foi personnelle et aussi dans le monde professionnel. Ce parcours est fait en collaboration avec la paroisse du Christ Sauveur et le soutien de la communauté de l'Emmanuel, et nous vous proposons une présentation plus précise donc le jeudi 17 septembre à 20h30 à la maison diocésaine Saint-François-Xavier au 35 rue Montpensier à Pau. Venez nombreux vous informer. Vraiment, ce parcours nous repositionne vraiment en tant que chrétiens dans le monde.
On va évoquer maintenant le pèlerinage du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, pèlerinage à Lourdes. Ça va se passer les 19 et 20 septembre et on encourage les Béarnais qui nous écoutent à venir à Lourdes.
Oui, alors ça fera deux beaux week-ends à Lourdes qui vont se suivre. Mais là, venez vraiment entourer aussi tous les malades qui seront avec l'HBB dans ce pèlerinage. Nous, on vous propose deux jours, le 19 et le 20 septembre, avec des bus qui partiront depuis Saint-Jean-de-Luz, Bayonne, Orthès, Pau. Le dimanche, la messe sera célébrée à 10h par notre évêque Monseigneur Ayet. Il y aura les vêpres, à 15h30. Toutes les informations sont sur le site du pèlerinage du diocèse de Bayonne, pèlerinagediocésain.64.org, mais sinon depuis le site du diocèse, inscrivez-vous vite pour pouvoir participer à ce temps fort diocésain au pied de Notre-Dame à Lourdes.
Voilà, week-end du 19 et 20 septembre au pèlerinage donc à Lourdes. On termine l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron avec la 8e édition du festival du cinéma chrétien de Bayonne. Ça va commencer mercredi 16 septembre. 8 films au programme.
Oui, le thème cette année, c'est la fraternité et la paix. Donc ça a lieu au cinéma du CGR de Bayonne du 16 au 22 septembre avec plusieurs films qui sont proposés, notamment des films sur Baroudeur du Christ, sur Maximilien Kolb, mais également sur La force de croire ou La bicyclette de la paix. Donc il y a un film aussi pour les enfants le dimanche 20 et le samedi 19. Avec des goûters qui sont proposés autour de ce film La bicyclette de la paix. Il y a des débats avec les membres de l'association Lazare, avec également un prêtre des missions étrangères de Paris. Tout le programme est sur le site Facebook. festivalcinemachrétien.com avec un lien aussi depuis le diocèse, le site du diocèse où vous pouvez retrouver ce programme de ce beau temps de festival de cinéma chrétien.
Voilà, notez que pour les tarifs, ils ont été négociés puisque le pass pour 5 films, c'est 30 euros, 8 films, 45 euros. Ça va se passer du 16 au 22 septembre au CGR donc de Bayonne, le festival du cinéma chrétien donc de Bayonne. Et c'est là-dessus qu'on va refermer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. L'actualité, on la retrouve sur diocèse64.org. Je rappelle, avec vous étiez avec nous, Nathalie Chambon, en duplex depuis Bayonne. Et visiblement, les travaux à Bayonne se sont calmés.
Oui, tout à fait. Voilà. Oui, merci Gilles. Depuis lundi, on n'a plus le bruit des marteaux piqueurs. Pardon, c'est quand même bien plus agréable. Merci d'avoir partagé mes conditions compliquées la semaine dernière.
Voilà, puisque la semaine dernière, pour les auditeurs qui n'étaient pas là, voilà, on entendait bien les travaux au téléphone, donc à votre téléphone. Bien, on vous souhaite une excellente fin de semaine à Bayonne, Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Gilles. Merci. Bonne semaine à vous. Au revoir.
Sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On s'enlace, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime. Quand tu auras compris, éveille-toi, je serai là pour toi.
À Montauban, 93.3.
Comment Lourdes se prépare à accueillir le Saint-Père dans quelques jours? Élément de réponse avec vous, Androse Jankovic et votre invité.
Bonjour Damien Massé.
Bonjour Ambrose.
Vous êtes le coordinateur de la venue du pape Léon XIV à Lourdes, un événement qui approche. Le Saint-Père arrivera dans la cité mariale le samedi 26 septembre en fin de journée, repartira au petit matin du lundi 28 septembre, moins de 48 heures pour une visite donc avant tout spirituelle et pastorale. C'est bien cela qu'on a compris. Le pape vient se faire pèlerin parmi les pèlerins à Lourdes. Alors aujourd'hui, vous allez nous dire tout, en tous les cas, tout ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à l'approche de l'événement. Alors peut-être que c'est utile de commencer par une petite présentation, Damien Massé, puisque vous avez été nommé à ce poste de coordinateur assez peu de temps finalement après l'annonce et la confirmation de la venue du pape à Lourdes. Vous n'êtes pas de Lourdes, vous n'êtes pas non plus du diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors Pourquoi êtes-vous missionné? Pourquoi êtes-vous présent? Et comment vous avez attrapé cette mission, Damien Massé?
Merci. Ben, bonjour à tous. Écoutez, en fait, quand on a commencé à entendre parler de la visite du Saint-Père en France, hein, avant l'annonce officielle, moi je suis professionnel dans l'organisation d'événements, mais je suis aussi catholique pratiquant et engagé, et j'avais vraiment très envie de participer à cette incroyable aventure. Je suis normand, donc j'habite entre Rouen et Le Havre, donc effectivement pas forcément trop du côté des Pyrénées, et j'aurais plutôt eu tendance à aller vers Paris pour travailler à cette organisation, sauf que voilà, Paris c'est gros, il y a beaucoup de monde. Je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas tenter. J'ai fait une démarche commerciale en fait à la base, hein, puisque voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai proposé mes services au père d'Oban et à Monseigneur Mika, qui après quelques échanges m'ont dit, banco, on y va, on a envie de travailler avec vous, et moi j'avais envie de travailler avec eux. Ça s'est fait comme ça, et ça me permet aussi d'arriver dans le sanctuaire où les équipes tournent déjà à fond en permanence. C'était pas forcément facile pour eux de sortir avec une mission de coordination, hein. C'est vraiment une mission de coordination, on pourra rentrer dans les détails après si vous voulez, mais voilà, de sortir de leur vie quotidienne et de leur mission quotidienne, quelle qu'elle soit, pour en plus avoir la coordination de l'avenue du Saint-Père. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Donc parce que là, on parle vraiment d'événementiel, mais c'est de l'événementiel un peu particulier, puisque c'est de l'événementiel chrétien. C'est un moment de grande ferveur, de grande ferveur populaire. Donc il y a ces deux pans-là à gérer, en fait.
Alors, il y a ces deux pans-là à gérer, mais enfin c'est aussi ce qui fait quand même beaucoup l'intérêt de la mission. C'est bon, organiser un événement, ça passe toujours à peu près par les mêmes étapes, hein. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, avec qui on veut le faire, combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre, la sécurité, tout ça. Bon, je rentre pas dans les détails. Et vous rajoutez effectivement, comme vous dites, la ferveur chrétienne. Et là, ça donne du sens en plus à ce que je peux faire dans mon métier. Donc moi, trouver l'occasion de faire mon métier, mais en plus d'y rajouter du sens, c'est pas la première fois que je fais un événement chrétien. Évidemment, c'est la première fois que j'en fais un de cette ampleur. Ça, c'est formidable.
Quelle a été votre priorité depuis le mois de juin, depuis que vous avez commencé votre mission?
Essayer de comprendre ce que chacun a envie d'apporter à cette mission. Quand je dis chacun, c'est les équipes du sanctuaire principalement, et un petit peu les acteurs autour, préfecture, mairie de Lourdes, et voir un petit peu avec eux comment bien travailler ensemble, et surtout dans la sérénité, pour pas qu'il y ait de crispation.
Alors c'est quoi qui donne le tempo pour un événement comme ça? Est-ce que c'est la sécurité du Saint-Père? Est-ce que c'est la gestion des flux des pèlerins? Est-ce que c'est l'image du sanctuaire de Lourdes? C'est quoi qui donne le rythme?
Bon, facilement, j'aurais un peu tendance à vous dire un peu de tout ça. Non, le tempo...
C'est trop facile.
D'accord, alors ok, rejeté. Le tempo, c'est le Vatican, en fait. Parce que c'est pas nous qui organisons... Enfin, comment dire? C'est pas notre programme, on invite le Saint-Père et il vient faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Non, c'est le programme du Saint-Père.
Pourtant, il se fait pèlerin comme tous les autres pèlerins, à peu près comme tous les autres pèlerins.
C'est son programme, c'est lui qui le souhaite. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'annonce comme ça, mais c'est bien lui qui le souhaite. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans son planning, et de là découle tout ce qu'il y a à faire pour que ce planning tienne. Les rencontres qu'il souhaite faire, les prises de parole qu'il souhaite faire, les lieux. Alors on lui fait des propositions, c'est pas on reçoit...
Oui, parce qu'on a vu qu'au cours de l'été, le programme d'abord annoncé avait été un petit peu changé. Bon, ça c'est sans doute normal.
Exemple excellent du chamboule tout de l'horaire de la messe, où effectivement, nous on part sur un horaire et puis finalement le Vatican, dit bah non, finalement la messe ce serait mieux que ce soit plutôt en fin de matinée. Ok, bon... on y travaille, on retravaille notre copie et on trouve des solutions. Voilà un petit peu le tempo, exemple.
Donc si je comprends bien, le Vatican donne la feuille de route et après vous ici avec différents interlocuteurs, alors on parle du sanctuaire, mais sans doute faut-il mentionner la ville de Lourdes, la préfecture, vous travaillez à coordonner les choses et les équipes pour répondre au mieux aux exigences du Vatican.
Pas le mot exigence, on est quand même dans un échange. Le Vatican, il est venu, enfin, le coordinateur des voyages pontificaux, Monseigneur Salas, est venu deux fois. Nous sommes en échange direct avec ses équipes. Il y a aussi le nonce apostolique qui a un rôle important à jouer. Il y a le comité de pilotage national de la visite, hein, puisque Paris, Lourdes, Metz. Donc tout ça doit s'articuler. Je dis pas que c'est facile, mais on est quand même dans un travail d'échange. On n'est pas... Personne pose d'exigence, mais on a à sentir ce qui est le mieux pour cette visite et pour qu'elle se passe dans les bonnes conditions.
Alors on va regarder d'un petit peu plus près le programme et j'ai quelques questions sur des points en particulier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si dans le programme tel qu'il est maintenant ficelé, peut-être qu'il est ficelé pour de bon, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé mettre ou que vous aviez envisagé auxquelles vous avez dû renoncer ?
C'est plutôt l'inverse. On a réussi à faire passer des choses dont on avait très envie, par exemple l'avenue du Saint-Père à la grotte dès son arrivée le samedi soir. Ça s'était pas acquis au début compte tenu des horaires et alors je dis pas que nous avons réussi à décaler la messe à Paris place de la Concorde, ce serait un peu présomptueux de notre part, mais on a profité de la nécessité pour Paris d'avancer un petit peu l'horaire de la messe et du coup proposer au Saint-Père de pouvoir passer à la grotte en arrivant,
oui,
et ça c'était très fort pour nous.
Parce que ça a vraiment du sens pour Lourdes de commencer son pèlerinage à Lourdes en passant à la grotte des Apparitions.
Pèlerin parmi les pèlerins.
Alors justement, on va aller d'étape en étape. Le pape Léon XIV va arriver à l'aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées le samedi 26 septembre au soir. Là, comité d'accueil restreint, protocole alors, particulier, comment ça se passe à ce moment-là ?
Protocole géré avec la préfecture. On a laissé un petit peu la main à la préfecture, tout simplement parce que les conditions de sécurité de l'aéroport de Tarbes-Lourdes, elles sont parfaites en termes d'aéronautique, mais elles sont pas faites comme à Roissy ou à Orly pour accueillir régulièrement des chefs d'État. Donc c'est très restreint. Donc on a préféré se dire avec la préfecture, vous prenez la main. Et donc il y a bien sûr un comité d'accueil composé de personnes malades, d'enfants. Mais c'est plutôt
géré. Parce que le pape arrive en Bigorre, il faut qu'il sente la Bigorre à ce moment-là quand même.
On a positionné l'avion de telle sorte que les caméras filment les montagnes. Ça a été l'objet.
Ah mais vous avez pensé à
très
tout.
Voilà.
On va. Non donc, mais c'est vrai. Vous posez aussi ce genre de questions.
Oui, on se pose avec David Torchala, directeur de la communication du sanctuaire, avec France Télévisions. Enfin, c'est le genre de choses dont on parle. Oui, bien sûr. Tout est important.
Donc il arrive à l'aéroport. Oui. D'après ce que vous dites, on comprend que c'est une séquence finalement assez courte. Il va rapidement à Lourdes pour aller rapidement à la grotte.
Alors, faut bien voir qu'il a une belle journée dans les pattes, hein, puisque on aura d'ailleurs vécu depuis le sanctuaire l'après-midi. On pourra assister sur les grands écrans installés pour le week-end à la messe à Paris, parce que ça quand même être un moment incroyable aussi pour notre pays. Et ensuite, donc effectivement, on va le voir arriver. C'est très rapide parce qu'il va être assez fatigué quand même. Mais il souhaite quand même ce temps de prière à la grotte. Et un premier temps de salutation des acteurs du sanctuaire.
Entre l'aéroport et la grotte, les auditeurs qui nous écoutent se disent « Ah bah tiens, moi je vais essayer de me mettre quelque part sur le chemin, sur le trajet, pour pouvoir faire coucou au pape. » C'est possible ça ? C'est prévu ? J'imagine que vous l'avez envisagé, prévu. Comment c'est cadré ? Est-ce qu'on va savoir le trajet exact du Saint-Père à ce moment-là ?
Il y a quelque chose de prévu, mais je laisse à la mairie de Lourdes le soin d'en parler, puisque c'est leur séquence à eux.
Alors, première étape au sanctuaire, ce temps à la grotte qui est un temps de prière, de recueillement pour le Saint-Père. Les fidèles peuvent venir, là, on va parler des inscriptions tout à l'heure, mais est-ce que pour être dans le sanctuaire de Lourdes à ce moment-là, il faut une autorisation spéciale, un laissez-passer, une accréditation ?
Oui, ça fait partie des inscriptions. Donc effectivement, il y aura beaucoup de monde le samedi pour accueillir le Saint-Père en fin de journée, et peut-être même dans la journée pour regarder la messe tous ensemble. Donc ça fait partie des inscriptions qui sont closes. Donc en parler, c'est un peu en parler au passé pour les inscriptions. Oui, il y aura beaucoup de monde sur le sanctuaire ce jour-là pour accueillir le Saint-Père, qui passera d'ailleurs en papa mobile avant d'arriver à la grotte.
Le dimanche, c'est quand même la grande journée, puisque si vous nous dites qu'il y a beaucoup de monde le samedi, on attend quand même encore plus de monde pour le dimanche. La messe est donc à 11h sur la prairie du sanctuaire. Les pèlerins peuvent arriver du coup dès le samedi, la nuit, le matin, aux aurores. Comment c'est envisagé ?
Pour des raisons de sécurité et de logistique, le sanctuaire sera fermé la nuit. Après le départ du Saint-Père, le samedi soir, il ferme à 23h. Et il
donc roule. Les pèlerins qui ont prévu de venir planter leur tente sur la prairie, ça, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas possible.
Mauvaise idée.
Important de le
dire. Ce ne sera pas possible. Par contre, le sanctuaire va ouvrir à 5h du matin. donc le dimanche matin, sur Saint-Michel, Saint-Joseph et la Prairie, ce qui permet quand même d'absorber jusqu'à 10 heures l'ensemble des pèlerins. 150 000 pèlerins sont annoncés pour...
Et inscrits.
Et inscrits, voilà. Donc, se sont annoncés, faire inscrire, on va y revenir, pour être prêts à 10 heures, puisque la messe est à 11 heures, mais à 10 heures, le Saint-Père traverse la Prairie et l'Esplanade en papa mobile pour saluer les pèlerins.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a aussi la question des mouvements de pèlerins. Quand le Saint-Père traverse le sanctuaire pour se rendre à la Prairie, il faut que les pèlerins soient dans leur case.
En fait, la case, on lui a donné le nom de bergerie.
C'est mignon. C'est très bigourdant.
On pense à Bartres, parce que effectivement, alors c'est des grands carrés, hein. Bon, organisation assez classique. Il y a des allées donc les pèlerins vont être.
Oui, tous ceux qui sont allés au JMJ savent de quoi on parle.
Connaissent ce genre de choses ou ces grands événements, c'est souvent comme ça. Et le Saint-Père avec la Pama mobile va se promener. Hein.
Comment déambuler.
Déambuler.
Donc quand on est dans son carré, on bouge pas. On va pas se promener.
Quand on n'est pas quand le Saint-Père est pas en déplacement, on peut aller aux toilettes. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on est dans sa bergerie. Il y a des animations à partir de 5h du matin. Évidemment, temps de prière, chant, louange, film sur les papes à Lourdes. Enfin, il y a plein de choses pour faire monter un peu la tente jusqu'à ce moment de la procession d'entrée de la messe qui elle sera à 11h.
Alors les pèlerins qui se sont inscrits ont eu le choix de s'inscrire pour toute la journée, donc procession mariale à 20h30 le soir comprise, ou bien juste entre guillemets la messe. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la procession mariale à 20h30, qu'est-ce qui va se passer, puisque vous allez nous expliquer après, j'espère, enfin ce que vous pouvez nous expliquer, ce que le Saint-Père va faire lui dans l'après-midi, en tous les cas en première partie d'après-midi, mais pour les pèlerins, il va se passer quoi à ce moment-là?
Alors effectivement, à l'issue de l'Angélus, le Saint-Père part déjeuner et se reposer. Nous, à partir de ce moment-là, on continue ce temps d'animation qu'on a commencé le matin. On a tout un programme qui continue.
Les pèlerins sont pris en charge par le sanctuaire. Enfin, pris en charge. En tous les cas, ils sont accompagnés, portés par le sanctuaire, voilà, toute la journée.
Il y a ce temps d'animation qui est quand même très important, parce que c'est presque la séquence la plus longue. C'est pour les personnes qui s'occupent de ça. Donc voilà, il y a des chaplains qui s'en occupent. Il y a la pastorale des jeunes. Enfin, on travaille un programme très diversifié qui s'enchaînera jusqu'au soir, avec quand même une interruption importante au milieu de l'après-midi, puisque le Saint-Père revient dans le sanctuaire vers 15h30 pour, à l'accueil Notre-Dame, une rencontre spécifique des malades et du monde soignant et des hospitaliers, et une prise de parole très attendue sur la vie. Donc, ça c'est un
moment que tout le monde pourra entendre.
Que tout le monde dans le sanctuaire pourra entendre, et qui sera retransmis aussi à la télévision, hein, puisque France Télévisions, qui accompagne la visite du Saint-Père, retransmettra ce moment-là. Le Saint-Père, à ce moment-là, ensuite, rencontre aussi des associations plus œuvrant sur les questions de précarité, de vulnérabilité. Alors là, c'est pas diffusé parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Voilà. Mais voilà. Et ensuite, donc le moment où le Saint-Père est là, effectivement, là, on retransmet le live, comme on dit, le direct. Bon, et puis après, deuxième partie d'après-midi, là, le Saint-Père repart et on est en attente de la procession mariale où là aussi, quelque chose d'incroyable, le Saint-Père qui revient dans le sanctuaire pour être lui-même pèlerin de la procession.
Voilà, donc les pèlerins qui ne se sont pas inscrits pour la procession repartiront avec leur bus ou leur moyen de locomotion, enfin voilà, et ceux qui se sont inscrits pourront rester, seront à nouveau mis dans des bergeries.
Tout à fait.
Voilà. On passe, si vous voulez bien, à la journée du lundi, qui est très courte finalement pour nous ici en Bigorre, puisque c'est le départ. Le Saint-Père va partir pour Metz. Néanmoins, c'est quand même important, puisque c'est important qu'il rentre dans Lourdes, mais le moment où il en repart, comment ça va s'organiser de votre côté?
C'est vraiment très tôt, donc il y a rien de particulier en ce qui concerne effectivement le public qui pourrait être quelque part, même à l'aéroport. C'est vraiment une salutation très protocolaire. Pour nous, c'est pas une séquence, je vais dire, très très forte au sens.
Il dit au revoir le dimanche soir à la fin de la procession mariale.
D'ailleurs, il prend la parole à l'issue de la procession mariale. Je pense qu'effectivement, c'est plus dans le sens d'un au revoir. Après, c'est de la c'est de la logistique. Hein. Mm-hmm. Voilà, on n'a pas de. Il y a une salutation très courte à l'aéroport des autorités et de Monseigneur Mika. Voilà.
Avant la pause pour le journal régional, Damien Massé, une petite question sur les inscriptions. Oui. C'est pas la première fois qu'un pape vient au sanctuaire de Lourdes, c'est la première fois qu'il faut s'inscrire, que le nombre de pèlerins est limité. Pourquoi c'était important de faire comme ça ?
Parce que c'est la première fois qu'il y en aura 150 000.
Il n'y en avait pas autant pour les autres papes.
Alors après, vous savez, les chiffres, nous, très concrètement, et là, on parle chiffres, jauge, préfecture, réglementation, sécurité. Mmh. Un très, très gros travail fait par les équipes du sanctuaire et les équipes de la préfecture et les sapeurs-pompiers qui ont déterminé une jauge à 150 000. À partir du moment où on a senti... En fait, c'est l'enthousiasme des pèlerins qui nous amène à devoir fermer la jauge par des inscriptions. Si 3 mois après l'annonce, on avait senti qu'il y avait 50 000 personnes, on serait pas dans cette dynamique-là. Mais on est dans une dynamique tellement enthousiasmante.
Vous avez senti tout de suite que ça montait qu'il fallait
en fait,
cadrer
si
les
vous
choses.
Voulez, en fait, j'ai combien de temps ?
10 secondes.
10 secondes. Le Stade de France remplit en 40 minutes. J'exagère peut-être un peu, en 2 heures. Hein. Le Stade de France rempli en 2 heures, c'est la même chose, toute proportion gardée avec Lourdes. On est dans la même dynamique que Paris.
Vous vous en doutiez que ça allait se passer comme ça ? Vous l'avez tout de suite senti ?
On s'en doutait pas, mais les chiffres arrivent tout de suite. Donc, tout de suite, il faut réagir. Donc, il a fallu mettre en place ce process. On peut en reparler après si vous voulez.
On marque une pause pour l'information régionale. A tout de suite, Damien Massé.
Et c'est Éric Leclerc qui nous rejoint pour le journal régional.
Bonjour, à quelques jours de l'audience du tribunal de commerce de Toulouse, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, appelle le président de la République, Emmanuel Macron, à décider d'une nationalisation temporaire de l'usine Fibre Excellence à Saint-Gaudens, c'est-à-dire une prise de participation provisoire de l'État au capital de l'entreprise, ne nécessitant pas de loi spéciale. Objectif, sécuriser le site de Saint-Gaudens et ses 270 emplois pendant quelques mois. Afin de donner aux industriels intéressés le temps nécessaire pour finaliser une solution de reprise pérenne, l'usine de pâte à papier est placée depuis fin juillet en liquidation judiciaire. Interruption de la navigation durant plusieurs semaines sur le canal latéral à la Garonne entre Montèche et Escatalens dans le Tarn-et-Garonne. Samedi, une péniche a percuté l'écluse de Montèche. Aucune victime n'est à déplorer. Depuis 10 ans, le réseau Linéo accompagne au quotidien les habitants de l'agglomération toulousaine dans leurs déplacements. Plus de 200 millions de voyages ont été réalisés à bord de ces 13 lignes structurantes, plébiscitées par 81% de voyageurs satisfaits. À cette occasion, Tisséo Collectivité déploie une campagne de communication sur son réseau, notamment à travers l'habillage d'une rame de tramway visible jusqu'au 26 septembre. Les passionnés de pages rares ont rendez-vous à l'espace Valentré à Cahors les 5 et 6 septembre. L'association Le Temps du Livre annonce une édition mémorable. Gastronomie, bibliophilie d'exception, artisanat du livre et surprise éditoriale composent les grandes lignes d'un rendez-vous qui, depuis 28 ans, fait de Cahors la capitale quercinoise du livre rare. Découvrez l'abbaye de Flarens dans le Gers à votre rythme. Partez à la découverte de ce joyau historique en toute simplicité. Grâce à un nouveau compagnon de visite, il vous suffit d'un clic sur votre téléphone pour bénéficier d'une expérience immersive. Laissez-vous guider par les guides conférenciers à travers un parcours enrichissant, jalonné de 12 points d'intérêt soigneusement sélectionnés. Explorez l'histoire de l'abbaye, admirez son architecture remarquable et laissez-vous séduire par ses trésors cachés. Attention, pour le confort de tous, l'utilisation des écouteurs ou d'un casque audio est recommandée.
Merci Éric Leclerc, retour de l'info sur notre antenne dans une demi-heure avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence. Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Nous sommes aujourd'hui avec Damien Massé, coordinateur de la venue du pape Léon XIV au sanctuaire de Lourdes. Alors, on a parlé déjà de beaucoup de choses, du programme, des fameuses inscriptions avec vous, Damien Massé. J'ai un peu une foire aux questions pour vous.
Allons-y.
Allons-y. Alors, quand même, la première question est sans doute la plus importante au sanctuaire de Lourdes. Pour les personnes malades ou à mobilité réduite ou les personnes un peu âgées qui ont un peu de mal à marcher, quelle place et quel accueil pour ces personnes-là qui sont à Lourdes les premières et les plus importantes ?
C'est tout à fait vrai, elles sont les premières et les plus importantes, donc dans le processus d'inscription, qui certes est clos, mais il y avait la possibilité de s'inscrire en tant que personne à mobilité réduite, et donc à partir de ce moment-là, il y a un traitement particulier, elles vont recevoir des informations, ces personnes, pour leur venue, pour leur véhicule ou leur groupe, ça dépend quelle forme elles ont pris d'inscription, et pour qu'elles puissent ensuite être accompagnées au plus près du podium du Saint-Père. On va essayer aussi de faire en sorte que... puisque nous sommes à la radio et donc dans un effort de communication et d'image, puisque ça passe aussi par là, que vraiment elle soit très présente aussi dans l'image que nous allons donner de Lourdes lors de cette célébration.
Alors il y a des personnes aussi qui sont un peu plus âgées, qui sont autonomes mais qui peuvent être vite fatiguées, mm-hmm. Qui se sont inscrites avec leur paroisse, leur diocèse, qui vont venir en bus. Là j'imagine aussi qu'il y aura une bienveillance naturelle et spontanée pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de malaise, que chacun puisse trouver son carré rapidement. Enfin,
Comme toutes les grandes organisations religieuses ou même olympiques, hein, on est sur le même mode, nous avons de l'ordre de 3000 volontaires, bénévoles, qui seront là pour effectivement accueillir, accompagner, orienter. Nous avons aussi un gros dispositif de secouristes et de sapeurs-pompiers. Tout le monde joue le jeu, bien évidemment, pour être là. Et ça fait aussi partie de l'enthousiasme général. Hein.
Au total, c'est combien de personnes qui sont...
5000.
5000 personnes, voilà. Pompiers, volontaires, bénévoles et
pour l'accueil du public, enfin des pèlerins à la messe.
Autre question, la fameuse question des papiers d'identité. Est-ce qu'il faut venir avec sa carte d'identité pour pouvoir rentrer dans le sanctuaire quand on est inscrit le dimanche 27 septembre ?
J'aurais tendance à dire que quand on vient sur un événement grand public, il vaut mieux avoir ses papiers d'identité parce que d'abord il peut se passer tout un tas de choses, donc il vaut mieux avoir quels qu'ils soient ces papiers d'identité. Mais ce n'est pas une obligation. Les papiers d'identité ne sont pas demandés à l'entrée. Par contre, comme nous avons des inscriptions, il y aura un titre d'accès demandé à l'entrée. Ce titre d'accès, il va être envoyé. Il y a des contacts qui sont établis avec les personnes qui sont inscrites via les groupes ou directement individuellement. Donc, il y aura un titre d'accès demandé à l'entrée.
Donc, avec un système de badge ou de QR code, enfin...
Ce sera plus simple que ça, mais il y aura un contrôle de ce titre. Et si possible, non, c'est même, là c'est quasiment obligatoire, c'est pour que ça aille vite, il vaut mieux que le titre d'accès soit imprimé. On oublie les histoires de téléphone, de machin, qu'il faut l'écran, la taille du QR code sur l'écran, la luminosité de l'écran, imprimons.
Donc vous êtes inscrit, surveillez votre boîte mail, vous allez recevoir l'accusé de réception avec le document qu'il faut imprimer pour pouvoir rentrer facilement dans le sanctuaire.
C'est tout à fait ça.
Voilà, alors rentrer dans le sanctuaire, pour que ce soit rapide, sûrement qu'il ne faut pas non plus venir avec 36 sacs à dos. Mais en même temps, la journée va être longue, donc il va falloir peut-être prévoir de quoi s'asseoir. Est-ce qu'on a le droit de venir avec son petit siège pliant ?
Alors,
comme on connaît bien à Lourdes.
Le petit siège pliant de Lourdes, oui, on peut venir avec un petit pliant, mais alors ces formats, on met qu'une seule fesse dessus en fait. Bon, un petit peu plus quand même, mais pas beaucoup plus. C'est vrai, c'est le petit siège de pêcheur, tout simplement parce que voilà, la surface déjà est comptée sur la prairie et sur l'esplanade, premier élément. Et deuxième élément, là, faut pas qu'on soit avec des choses trop encombrantes qui pourraient ensuite devenir gênantes dans l'organisation.
Pas de transat, évidemment. Voilà. Pique-nique dans le sac à dos ou restauration sur place ?
Pique-nique dans le sac à dos, bien sûr, mais avec cette petite problématique de pas de couteau. Pas d'ouvre-boîte. Il faut avoir découpé le saucisson avant de venir.
Alors, le pâté, mesdames, messieurs, le pâté, il faut déjà qu'il soit déjà dans le sandwich avant.
Voilà. Ça peut. Bon.
Enfin, on le dit en souriant, mais il n'empêche que questions sont posées. Alors,
en fait, il faut bien avoir en tête que les conditions de sécurité font que nous avons des portiques de sécurité, comme dans les aéroports. À l'entrée, tout le monde passe le portique et ça bip. Alors, si ça bip sur le pliant, ça va. Mais
si ça bip sur l'ouvre-boîte, c'est dommage quand même.
C'est embêtant et ça peut poser des problèmes. Et tout ça, en plus, ça ralentira le flux d'entrée. 150 000 personnes. Il faut que ce soit fluide.
Il y aura quand même de quoi boire et manger sur place. Boire à Lourdes, en général, on peut boire au sanctuaire de Lourdes.
Alors, il y avait la possibilité à l'inscription de pouvoir pré-réserver des pique-niques, mais par contre, il n'y a pas de buvette sur place. Trop compliqué à organiser.
Au niveau du ce que j'appellerais confort sanitaire, bon, il y a déjà évidemment des toilettes dans les sanctuaires, mais sans doute faut-il en installer d'autres. Et puis il y a la question pour les jeunes parents qui ont des enfants en bas âge, est-ce qu'une maman va pouvoir changer son nourrisson, par exemple ? Pardon hein, de poser ces questions pratiques, mais
alors je suis un jeune papa, mais comme tous les jeunes papas, je ne me suis pas posé la question.
Ah oui, mais moi je vous assure que les gens se la posent. Donc, toutes les questions pratiques, les pèlerins se la posent.
Alors des sanitaires, oui, on a en nombre et répartis sur l'ensemble de la prairie pour pouvoir accueillir tous les besoins. Par contre, joker sur le change des enfants, là, j'ai pas d'informations.
Bon, voilà, il faut tout avoir dans son sac à dos et de toute façon, les gens vont s'entraider parce que ça se passe comme ça au sanctuaire de Lourdes. Il faut arriver très tôt le matin, vous l'avez dit, Damien Masset. Tout ça, c'est une organisation qui est ficelée, qui semble parfaitement ficelée. Sans doute que c'est peut-être un peu le moment de saluer le travail des équipes aussi du sanctuaire, parce que donc vous, ça fait grosso modo deux mois et demi que vous travaillez avec les équipes du sanctuaire de Lourdes que vous ne connaissiez pas avant. Donc il y a là des salariés, des professionnels, des bénévoles. Il faut dire que tout l'été, tout le monde a travaillé pour que tout ce que vous nous expliquez là soit possible en fait.
Ah bah, bien sûr, il faut absolument saluer le travail de ce qu'on appelle la communauté d'accueil au sanctuaire, donc les salariés du sanctuaire, ce qui inclut aussi le clergé, mais aussi les salariés laïcs. Quand je suis arrivé, effectivement, je ne connaissais du sanctuaire que ce que j'en avais vu, moi, à travers les pèlerinages que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et j'ai découvert une machinerie formidable, incroyable, d'abord extrêmement bienveillante. Ils auraient pu me regarder avec un œil un petit peu... Bon.
On n'est pas comme ça, en Bigorre, mais...
Non, parce que à Lourdes, tout le monde est accueilli. Mais justement, non, j'ai vraiment été accueilli très bien par toutes les équipes et quel que soit le type de mission.
Parce qu'habituellement, pour un événement comme ça, il faut combien de temps pour organiser un événement de cette ampleur-là, habituellement ? En trois mois, c'est quand même pas grand-chose. Oui,
effectivement, ça fait partie de nos difficultés. Logiquement, c'est six mois. Vous voyez, par exemple, le Saint-Père va en Argentine, Pérou, Bolivie, je crois. En novembre, ils l'ont su début juillet. Donc, ils ont six mois. Nous, on en a eu quatre.
J'ai évidemment, Damien Massé, une question sur le coût. Chaque pèlerin qui s'est inscrit s'est vu... proposer de faire une offrande, une offrande conseillée de 15 euros. Est-ce que si chaque pèlerin joue le jeu, donne ce qu'il peut, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, est-ce que ça va suffire pour aider le sanctuaire ? Combien ça coûte en fait d'organiser cet événement ?
Alors, on est encore en train de consolider le budget, puisqu'il y a encore les frais de dernière minute, et notamment en termes de sécurité, d'organisation des flux.
C'est ça qui coûte cher ?
Oui, c'est ça qui coûte cher parce que il y a beaucoup de monde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc il peut y avoir plus de dons, c'est ce que l'on souhaite, c'est certain. Mais effectivement, le budget, on va encore attendre un petit peu avant de communiquer dessus, parce qu'il faut qu'on le consolide et on veut pas avoir à revenir trois fois dessus. En fait, on veut annoncer quelque chose de très clair, sachant que il n'y a pas que Lourdes dans la visite, il y a Paris et il y a Metz, donc le budget il est global. Donc nous avons aussi une réflexion au niveau conférence des évêques de France pour pouvoir annoncer des choses ensemble.
Pour terminer, Damien Massé, ma dernière question, c'est qui ou quoi est garant de la réussite de cet événement ? Il y a beaucoup de questions matérielles, logistiques, pratiques, les questions de sécurité, évidemment, mais c'est avant tout une étape, un moment spirituel très, très fort. Qu'est-ce qui est garant de la réussite de cet événement pour que vraiment les gens puissent prier avec le Saint-Père à Lourdes ? Vous avez le droit de répondre la grâce de Dieu, mais ça suffit pas.
Chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous qui est garant de la réussite de l'ensemble, que ce soit
organisateur ou
pèlerin.
C'est un peu vous aussi quand même, beaucoup, non ?
Chacun d'entre nous, vous, le Saint-Père, Monseigneur Mika, le Seigneur.
Merci beaucoup Damien Massé. On vous souhaite bon courage pour les quelques jours qui restent.
Merci.
Avant donc la venue du pape Léon XIV au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, il arrive le samedi 26 septembre en fin de journée, repartira donc le lundi 28 septembre au petit matin. Vous êtes le bienvenu sur Radio Présence pour nous donner plein d'autres infos dès que vous pouvez.
Volontiers, merci beaucoup à vous.
Et merci aussi à vous, André Jankovic.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence.
Présence à Cahors 92.5.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Tranquillement installé dans les studios de Radio Présence, comme chaque semaine, on part dans les Pyrénées. Le concept, bien sûr, c'est à travers un ouvrage que vous avez sélectionné. Aujourd'hui, on va parler de photos, mais et toujours fidèle au poste.
Oui, c'est toujours la Pyrénées, oui.
Toujours, ben voilà. Est-ce que vous avez appris des choses? Parce que vous avez fait cette thèse sur la perception des Pyrénées, donc vous aviez déjà pas mal de connaissances sur les Pyrénées à l'époque, à une certaine époque, à travers le temps d'ailleurs.
Oui.
Est-ce que malgré tout, aujourd'hui, vous apprenez toujours des choses?
Toujours, Philippe, parce que par exemple, là, on va parler du Haut-Aragon, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les Pyrénées françaises, c'est pour cela que c'est
le versant espagnol un peu moins.
Voilà, le versant espagnol, je le connais moins.
Oui.
Donc, je le découvre effectivement au fur et à mesure de certaines chroniques quand nous faisons une incursion en Espagne par exemple.
Et lorsque vous prenez, vous lisez ces livres, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude au bout d'un certain temps, non?
Non, parce que tout d'abord, ils sont souvent, quand on prend des livres, quand on prend la machine à remonter le temps, ils sont souvent le reflet d'une époque, d'une mentalité, d'une façon de percevoir les montagnes, comme on l'avait vu dans cette chronique.
Qui était fort intéressante d'ailleurs.
Voilà. Et il y a toujours quelque chose à découvrir à travers le regard de quelqu'un d'autre, finalement.
Ouais. Mmh. Et voir les Pyrénées, comment elles étaient. À l'époque, c'est vrai, vous appreniez que les Pyrénées ont resté en bas. C'était horrible, ça faisait peur, il y avait plein de légendes. Et puis, on ne gravissait pas du tout. On ne faisait pas de ski, rien.
Il faut attendre, je crois, 1903 pour que la première paire de skis arrive dans les Pyrénées.
Au début du XXe siècle,
oui. Oui, pendant longtemps, elles étaient le repère... au 18e, du diable, des sorcières.
C'est incroyable, hein?
Oui.
On a du mal aujourd'hui, à le percevoir que c'est pas si vieux que ça, quoi. C'est un siècle, le ski, quoi.
Voilà, et encore au 19e siècle, il y a des gens qui affirmaient qu'ils avaient vu des sorcières traverser le ciel en chevauchant un dragon ou un animal monstrueux.
Remarquez, si on reprend le texte de la jeune dame qui franchissait les Pyrénées avec la tenue, on aurait pu la prendre pour les sorcières.
Oui, exactement. Là.
Alors, quand on évoque les pyrénéistes, on parle de Russell, bien sûr, de Wallon, de Schrader, du comte Saint-Saul, etc. Et on oublie souvent Lucien Brier.
Oui, il faut dire, Philippe, que tous les pyrénéistes que vous avez cités l'ont un peu précédé. Lucien Brier, lui, est né en 1860 et 29 ans plus tard, avec son appareil photographique, il se lance à la découverte des Pyrénées.
Son nom est plutôt associé au versant sud des Pyrénées.
Voilà. En effet, car à partir de 1902, il se laisse attirer par le Haut-Aragon qu'il va parcourir pendant une dizaine d'années. Et il en rapporte des photographies exceptionnelles.
Il publie aussi de nombreux articles et donne des conférences qu'il accompagne de projections photographiques. Ce sont ces méthodes de travail que vous évoquez aujourd'hui. Donc on vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Claire Dalzin est bibliothécaire au musée Paul Dupuis à Toulouse. Elle a consacré un ouvrage à Lucien Brier, qui au début du XXe siècle découvre et photographie le Haut-Aragon. Tous les ans, entre les années 1902 et 1911, il quitte Charly-sur-Marne, où il habite, pour visiter, explorer cette région pyrénéenne, qui apparaît alors comme bien méconnue. Claire Dalzin s'intéresse entre autres aux méthodes de travail de ce pyrénéiste, même si Lucien Brier reste très discret à ce sujet. Nous savons, par les abondantes citations qui émaillent Superbe Pyrénées, écrit Claire Dalzin, que Lucien Brier a lu tous les grands pyrénéistes du XIXe siècle. Il avait d'une part constitué une bibliothèque remarquable qui fut malheureusement dispersée à sa mort. Il avait d'autre part consulté ses ouvrages sur place, à Gèdre, et en avait relevé des passages. Il ne s'agit pas d'une lecture documentaire, mais d'une immersion profonde dans ce monde qu'il découvre et assimile instantanément. Il arrive en Haut-Aragon après les pyrénéistes de la Pléiade qui ont, entre les années 1870 et 1890, effectué un travail cartographique considérable. Mais s'il se réfère et rend hommage à ses découvreurs, il n'hésite pas à rectifier leurs erreurs ou à compléter leurs descriptions par les informations neuves dont il dispose. On sent bien là un refus de révérence devant une quelconque autorité morale, un désir non de rivaliser, mais de se placer, par le sérieux de son travail, sur un pied d'égalité avec ses grands auteurs. Seul Ramon, peut-être parce qu'il l'a lu très jeune, lui inspire une admiration sincère. Mais s'il ne pratique pas l'humilité, il est d'une grande honnêteté intellectuelle, et s'il peut offrir le luxe de contredire ses prédécesseurs, c'est qu'il s'en donne les moyens, travaillant sérieusement et avec méthode. Les précieux carnets de notes conservés au musée pyrénéen révèlent un travail de fourmi. En ce qui concerne la préparation de ces expéditions, nous savons, grâce à plusieurs passages de superbes Pyrénées, qu'il transportait toute une documentation sur les lieux visités, en particulier les écrits de ses devanciers, qu'il cite parfois, et dont il n'hésite pas donc à rectifier les erreurs. « Je n'hésite pas à le répéter, écrit-il, la carte des Pyrénées centrales est à refondre dans ses détails, comme dans ses grandes lignes, des temps nouveaux exigeant des œuvres nouvelles en rapport avec le progrès accompli. » Le soir, à l'étape, il s'isole et travaille. Il ordonne ses matériaux et met en forme les réflexions que lui a inspirées le trajet de la journée. Cette ébauche lui permet ensuite de se livrer à l'écriture proprement dite dans son bureau de Charlie, où il peut à loisir recréer dans le calme les émotions précieusement ramenées d'Espagne. Et s'il a un doute, le réseau d'amis et de connaissances qu'il tisse au fur et à mesure de ses voyages vient à son aide. On le voit ainsi écrire à un certain Antonio Galve afin qu'il lui indique la situation d'une cueva près d'Abissanda. La réponse, agrémentée d'un plan d'accès détaillé, est conservée au musée pyrénéen. Dans cet ensemble de matériaux, les photographies, qui sont aujourd'hui la partie la plus connue de l'œuvre de Briller, semblent avoir un rôle essentiellement illustratif et documentaire. Si Briller parle peu de son travail d'écriture, il est quasiment muet sur son travail de photographe. Il consacre en tout et pour tout un paragraphe de Superbes Pyrénées à décrire la façon dont il change les plaques de verre de son appareil, et encore il se met en scène de façon quelque peu ironique. « Je changeais mes plaques, écrit-il, dans l'alcôve que j'occupais. Cette besogne m'horripilait dès qu'il me fallait l'accomplir. Je devais d'abord me réveiller moi-même au milieu de la nuit, me lever, monter ma lanterne rouge. Puis, après avoir sorti les châssis du sac contenant l'appareil, préparer des chemises pour les clichés impressionnés et des cordelettes pour ficeler les boîtes 18-24 entamées qui auraient pu s'ouvrir par inadvertance. Le pis, c'était de déballer le tout et de le remballer à même un lit de fibres de bois en vue d'éviter la casse, voire les moindres frottements. Combien de fois, brisé de fatigue et contraint de partir à l'aube, j'ai pesté contre Niepce et Daguerre et leur merveilleuse invention. Il est un peu plus prolixe dans ses chroniques alpines, où nous apprenons qu'en juillet 1905, la chaleur devient telle que le bois de son appareil joue comme s'il se trouvait sous les tropiques. Les rideaux de ses châssis se collent et il a de la peine à les tirer. L'appareil, les plaques de verre et les papiers sont transportés bien à l'abri dans des cantines de fer que Briller a ramenées de son service en Afrique du Nord et arrimées sur les mules à l'espagnol, à l'aide d'un entrecroisement de sangles et de cordelettes. Lucien Briller est connu pour ses talents de photographe. Ses clichés sont les témoins précieux d'un monde vieux de plus d'un siècle, mais c'était une époque où la photographie exigeait de transporter de lourdes charges, puisqu'on utilisait des plaques de verre. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Claire Dalzin, ouvrage intitulé « À travers le Haut-Aragon dans les pas de Lucien Briller, 1902-1911 » et publié par les éditions Kern en 2007.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Come back. shoes on, I'm gonna ride it.
Présence dans le Lauragais 97.9
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Au cœur de sociétés marquées par les conflits et les divisions, que vos communautés montrent qu'il est possible de vivre, de